Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir la romancière Nathalie Cohen qui nous parle de son nouveau roman, L'or de Jérusalem. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Sandrine.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une première dans cette émission. Quelques mots de présentation pour débuter. Vous êtes romancière et passionnée par l'Antiquité et les mondes méditerranéens. Vous êtes agrégée de lettres classiques et vous enseignez le grec et le latin. Vos recherches vous ont conduite à explorer en profondeur le judaïsme hellénistique et la patristique grecque. Elle se prolonge dans vos publications. Il y a d'abord un essai remarqué en 2017, Une étrange rencontre, juif, grec et romain, paru au CERF, qui interroge les interactions entre ces grandes civilisations antiques. Et depuis 2019, vous vous êtes lancé dans l'écriture de thrillers historiques dont la toile de fond est l'Antiquité romaine et où le judaïsme n'est jamais loin. Il y a un fauve dans Rome. Vous avez transporté vos lecteurs au cœur de l'Empire romain. Et puis il y a votre actualité, la récente parution de L'or de Jérusalem chez Flammarion. Alors de quoi parle votre nouveau roman ? C'est l'histoire d'une femme, Gaïa, vestale à Rome, qui aime Marcus, officier romain en rupture. Avec lui, elle a eu un fils, Alexander, et lorsque Marcus déserte les cohortes de l'Empire pour fuir la folie de Néron, il part avec l'enfant en Galilée. Ensemble, ils rêvent d'une vie paisible, libre, loin de la cruauté de Rome, et Marcus met tout en œuvre pour que Gaïa les rejoigne. Mais l'histoire en toile de fond ne leur accorde aucun répit. La révolte gronde en Galilée, gagne Jérusalem, puis embrasse toute la Judée. Rome répond par la guerre, et au cœur de cette guerre, un enjeu immense est caché, le temple de Jérusalem, son trésor, sa mémoire et son or. Lorsque leur fils Alexander est enlevé, Marcus se lance dans une quête déchirante pour le retrouver. Commence alors une quête haletante, tragique et bouleversante, entre ruines, batailles et visions d'effondrement. C'est un véritable polar antique que vous nous faites vivre. Votre érudition au service du récit nous ouvre les portes d'une page d'histoire pas toujours bien connue, celle de la Judée insurgée, de Jérusalem encore debout, de ces hommes et femmes pris dans la tourmente d'un empire qui vacille. Et si l'époque est ancienne, ce que vous écrivez résonne puissamment avec l'actualité. Ce livre bouleverse, il réussit à nous toucher, il arrache des larmes, parfois sans prévenir, tant certaines pages semblent écrites avec l'encre du présent. Depuis les massacres du 7 octobre 2023, nous savons que ce qui semblait enfoui dans les livres d'histoire peut ressurgir. Votre roman donne à ressentir cela. Nathalie, pourquoi ce livre aujourd'hui, avec une intrigue qui se situe en Judée et notamment à Jérusalem ?
Alors d'abord, je voudrais vous remercier Sandrine pour cette magnifique présentation qui m'émeut beaucoup. Alors pourquoi les Juifs en Judée ? Parce que en fait, je me suis rendu compte que quand je me suis intéressée aux Grecs et aux Romains, je me suis rendu compte que ce monde-là était en dialogue permanent en fait avec le judaïsme et que les Juifs étaient en dialogue permanent avec les Grecs et les Romains. Et comme en fait tout me ramène en fait au judaïsme, j'avais envie que ce judaïsme se déploie dans cette époque. Et de façon naturelle, l'épisode de la révolte contre des Juifs, contre les Romains, prenait place dans le parcours de mon héros, puisqu'on va le laisser en 64 avec le grand incendie de Rome, et que dans cet or de Jérusalem, qui peut se lire indépendamment de Un fauve dans Rome, il se retrouve en Judée. Et puis j'avais envie d'aller à Jérusalem, et j'avais envie de savoir comment ça s'était passé, cette révolte. Et pour savoir comment ça s'est passé, il faut l'écrire.
Il faut commencer quelques années avant,
oui.
En l'an 66, aux portes de la première guerre judéo-romaine. Le livre est très documenté, très riche. Comment vous avez travaillé ?
Alors, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les sources primaires, c'est-à-dire le témoin direct, Flavius Joseph, qui a écrit sûrement d'abord en araméen, cette guerre des Juifs contre les Romains. Et donc, j'ai beaucoup lu Flavius Joseph avec un éclairage quand même, parce qu'il faut savoir que Joseph a trahi Et donc, il est passé du côté des Romains pour avoir la vie sauve, pour sauver aussi une partie des gens qu'il connaissait. Et donc, quand il va écrire cette guerre des Juifs contre Rome, il va devoir quand même faire l'éloge de Titus et Vespasien. Donc, il y a des réalités qui sont extrêmement fortes, des choses que Joseph nous dit qui sont confirmées par l'archéologie ensuite, mais... il faut savoir le lire en disant, ben voilà, il est historien officiel de la cour. Donc, Flavius Joseph. Ensuite, des témoignages plus tardifs d'un historien qui s'appelle Dion Cassius. Des témoignages de Tacite, de Suétone. Et puis, j'ai lu le Talmud. Parce qu'en fait, on a trois traités du Talmud, hein, qui nous... Tamid, Midot, Gittin, et puis d'autres... qui nous raconte en fait ce qui se passait dans le temple, la Avoda, comment on faisait. Et donc, je me suis imprégnée de tout ça. Et puis bien sûr, sur Néron, on a évidemment Tacite, Suétone et des tonnes d'ouvrages. Et donc, il y a un temps en fait d'imprégnation. Et puis ensuite, il s'agit de presque tout oublier, entre guillemets, et d'écrire.
Alors justement, à vous écouter, on aurait pu avoir l'impression que c'est un livre d'histoire, mais c'est bien plus que ça. C'est qu'à partir d'une matière et des sources que vous avez recoupées ensemble, il y a l'action, il y a un thriller, avec notamment ces deux personnages attachants, hein, Gaïa, la Vestale romaine, et puis Marcus. Comment vous réussissez à jongler entre les deux, entre les sources historiques et puis ce thriller qui est haletant, qui est vraiment réussi?
En fait, je pense que pour réussir à écrire comme ça une narration, un roman, il faut s'accrocher à ces personnages. Et les personnages nous guident. Donc Gaïa, c'est une femme, c'est une vestale, c'est une prêtresse. Et ben, je la laisse évoluer. Pareil, Marcus, je laisse évoluer. Et ensuite, ils ont des problèmes et il s'agira de les résoudre. En fait, c'est une intrigue qui se déroule naturellement.
Avec une complémentarité. L'un qui est juif est plutôt perplexe, et puis voilà. Elle qui se rapproche du judaïsme.
Alors oui, des juifs perplexes, des juifs philosophes, ce qu'on appelait d'ailleurs des apicorotes. Hein, c'est-à-dire on les appelait les épicuriens, mais ce n'était pas forcément... Hein, les rabbanim les appelaient comme ça. Donc des juifs qui se posent la question, on va dire, de la rationalité ou des choses comme ça. Il y en a déjà sous l'Empire romain. Mais en fait, ce qui m'intéressait dans Gaïa, c'est que ce soit justement une prêtresse. Donc, comme les prêtres coanimes, elle est vêtue de blanc. Comme les prêtres coanimes, elle voue un culte. Les prêtresses aussi, enfin, ou les prêtres à Rome, vont sacrifier. Donc, c'est cette sacrifier des animaux. C'est cette ressemblance entre les prêtres romains et les prêtres juifs qui m'intéresse. Et puis, cette ressemblance et ces grandes différences. Et Gaïa, justement, bascule. Alors, Gaïa, en fait, c'est un personnage complètement symptomatique de l'époque, parce qu'au 1er siècle, il y a énormément, énormément de femmes qui aiment judaïser, qui aiment avoir une vie juive pour des questions morales, des questions de respect de la femme, des questions de respect des enfants. Et donc, voilà, Gaïa, c'est un personnage qui est complètement dans son temps, de même que Marcus.
Alors, on ne peut pas tout raconter, hein, parce que c'est un polar, mais il y a ce fil conducteur qui est le titre du livre, L'or de Jérusalem. Quand vous écrivez, vous pensez directement à tout ce qui va suivre? Est-ce que vous avez le plan en tête, ou ça vient au fur et à mesure, comme la construction des personnages?
En fait, c'est vrai que ça vient au fur et à mesure, mais je me rends compte qu'à posteriori, j'avais un plan en tête. Mais ça vient au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée est curieuse. Un nom de personnage, par exemple Marcus Tiberius Alexander, c'est déjà une histoire. Marcus, parce que c'est son nom romain. Tiberius, parce que son père, qui était juif égyptien, avait été rendu citoyen romain sous Tibère. Alexander, parce qu'Alexander, c'est tout un programme. Il vient d'Alexandrie, qu'Alexander est un nom juif. Gaïa Cornelia, c'est pareil. Et là, l'or de Jérusalem... Il suffisait que j'appelle ça l'or de Jérusalem pour penser à l'or du temple, ce qui est complètement justifié parce que les Romains, les gouverneurs romains et Rome a des vues sur l'or du temple. Mais l'or, c'est aussi en hébreu, or, c'est la lumière. Et forcément, la lumière me renvoie à ce personnage d'enfant qui finira par s'appeler Meir, c'est-à-dire qui va amener la lumière. Donc, en fait, j'ai l'impression que la pensée se fait à partir des mots, des noms, des appellations. C'est comme ça que moi, que je fonctionne. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui fonctionne comme ça.
On vous a lu, enfin je vous ai lu, maintenant je vous écoute, et c'est un vrai plaisir. Et on se demande finalement si votre formation en lettres classiques et puis une bonne connaissance du judaïsme antique explique la réussite de ce livre et nourrit votre écriture.
Sûrement, parce que je viens d'un milieu juif tunisien, mais même djerbien. Et en fait, je me suis toujours vécue comme juive tunisienne, même si je suis née à Paris, puisque mes grands-parents faisaient des caparottes pour Kippour, etc. Ils avaient établi la Tunisie à Paris. Et en fait, ce que j'ai retrouvé dans le monde grec et romain, c'est le pendant du judaïsme. Je me suis rendu compte que tout se répondait. La fête de Hanouka, c'est on va choisir de judaïser plutôt que de vivre à la façon grecque. C'est ça qui se passe. Et la commémoration de la destruction du temple, ce temple a été détruit par les Romains. Donc en fait, il y a une complémentarité en fait, de l'Antiquité avec le judaïsme. Le judaïsme est en dialogue permanent avec cette Antiquité. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un symptôme de l'époque qu'on ne veuille plus faire de grec et de latin, parce qu'en fait, on se coupe. On se coupe des origines de notre civilisation, si j'ose dire, judéo-chrétienne.
Alors ça, c'est vraiment dommage, oui, que nos enfants n'aient pas accès à ces langues mortes comme nous, on a pu l'avoir. Vous avez employé le mot de dialogue, et c'est important parce qu'il y a ce dialogue des cultures entre les sources de la tradition juive et puis cette grande culture occidentale qui commence par la philosophie. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen de toucher le plus grand nombre de lecteurs et puis de faire passer des messages aujourd'hui alors qu'on vit quand même une époque compliquée?
Alors, je pense que elle dialogue naturellement. En fait, ce que je veux montrer, c'est que le judaïsme est une composante de l'Empire romain. On pense qu'une personne sur 10, donc sur 60 millions d'habitants de l'Empire romain, judaïsés. C'est-à-dire qu'il y a des juifs en Judée, des judéens en Judée, mais il y a des gens qui vivent de façon juive dans tout l'Empire romain. Donc ça. Et donc, en fait, remettre... recontextualiser, redonner la parole à l'histoire, c'est vraiment un bon moyen de défanatiser les gens, de leur ouvrir l'esprit, voir toutes les concordances qu'il y a, tous les échos, toutes les ressemblances. C'est vraiment, vraiment ce qu'il faut faire actuellement.
Lors de Jérusalem, on voit à la fin du livre qu'il y a un véritable trésor autour du temple et sur le temple. Est-ce que c'était la réalité ?
C'était la réalité. En fait, le livre, il est vraiment documenté. Donc ce temple, en fait, c'est mon professeur Mireille Adastebel qui l'écrit. Donc j'ai eu l'honneur d'avoir comme professeur. Il ressemblait de loin à une montagne enneigée, tellement en fait il brillait d'or et d'argent. Le toit était en argent, il y avait des reliefs sur le toit. Et puis quand vous entriez dans l'endroit le plus important, c'est-à-dire le Kodesh, quand les Kohanim rentraient dans le Kodesh, il y avait deux grandes salles au fond du temple, le Kodesh et le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, la grande porte du Kodesh, du Aaron à Kodesh, était en fait, on en parle dans le Talmud et les Romains en parlent aussi, il y avait une énorme vigne, une vigne d'or. Alors le Talmud dit 300 kilos, mais ce n'est pas impossible parce que les gens faisaient des dons. Il faut savoir que tout le monde juif, tout le monde judaïsant faisait des dons au temple. Et les gens qui venaient pèleriner, certains offraient une feuille en or, d'autres une grappe de raisin en or. Et donc, il y avait comme une treille, une énorme vigne qu'il fallait parfois enlever. Et donc, effectivement, ce temple qui est vraiment une merveille du monde antique, oui, il est vraiment comme ça.
Et puis, il y avait les trésors à l'intérieur, notamment la fameuse menorah en or, dont aujourd'hui encore, on imagine ce qu'elle a pu devenir. Est-ce que, par vos lectures, vos recherches, vous pensez qu'elle pourrait être sous le Vatican ?
Dans les caves du Vatican ? Ouais. Moi, je ne pense pas. Je pense que malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Vespasien et Titus ont fait leur triomphe à Rome... Donc, ils ont ramené ce qu'on appelle les tables de pain de proposition, où les Kohanim posaient les pains du Shabbat. Ils ont ramené la menorah, ils ont ramené énormément de kélim, de grands récipients en or, où les prêtres, ou en bronze, où les prêtres se lavaient les pieds. Tout ça a été installé Alors, il y a une partie qui a été fondue. La vigne d'or, elle a été fondue et ils ont fait de la monnaie. Rome avait besoin d'argent parce que Néron avait ruiné l'État. Et donc, avec des pièces d'or avec marqué Judaea Capta, la Judée vaincue, la Judée sous le joug romain. Mais cette menorah, elle était dans un temple que Vespasien a appelé un temple de la paix. Et puis, on en perd la trace. Alors, certains disent qu'elle est partie à Byzance, etc. À un moment donné, elle a dû être fondue.
Oui.
Parce que quand il y a des crises, hein, regardez actuellement, par exemple, l'argent manque, et ben, on va piquer les lignes, les bronzes des chemins de fer, etc.
Oui.
Donc, tout le monde fait ça.
Les cuivres.
Donc, en fait, là, ça a dû être fondu. Moi, je pense qu'elle a été fondue, mais peut-être qu'un jour, on va la retrouver.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Nathalie Cohen qui nous parle de son actualité, la parution de son roman L'or de Jérusalem chez Flammarion. Le climat est évidemment particulier, marqué par une montée de l'antisémitisme en Europe et en France notamment. À lire les dernières pages, eh bien, on pense à ça, on pense au 7 octobre, on pense aux difficultés que Juifs de France nous traversent encore aujourd'hui. Est-ce que quand vous avez conclu le livre, vous pensiez à ça? Ou même quand vous l'avez débuté?
Absolument. Alors, en fait, quand je l'ai débuté, c'était bien avant le 7 octobre. Hein. J'ai décidé d'aller à Jérusalem, que Marcus irait à Jérusalem avant le 7 octobre. Et effectivement, le livre, l'écriture de ce livre, elle a été prise dans le 7 octobre. C'est-à-dire, je l'avais fini aux trois quarts. Marcus était en train de chercher son fils, qui était roux, mais qui se trouvait être roux dans une Jérusalem dévastée. Et le 7 octobre arrive, et là je m'arrête, et je me rends compte à quel point ce livre fait écho au 7 octobre. Et pourquoi il fait écho au 7 octobre? Parce que, en fait, la condition juive nous ramène forcément à l'histoire. C'est-à-dire que c'est très dur d'échapper à l'histoire, d'échapper aux agitations, au chaos de l'histoire quand on est juif. Et donc, ce livre, a posteriori, fait vraiment écho au 7 octobre. Et en octobre 2023, je n'arrivais plus à le finir, je n'arrivais plus à écrire. J'ai réussi à m'y remettre en décembre 23, janvier 24, mais c'était trop tard pour qu'il fût édité en 24. C'est pour ça qu'il a été édité en 25. Et c'est vrai qu'à la fin, je rends hommage au personnage de Yohanan ben Zakkai, donc qui était le numéro 2, le bras droit de Gamliel. Et en fait, que fait ben Zakkai? Comme on le sait tous, il sort de Jérusalem, il décide de sortir de Jérusalem pour se dire que finalement, Dieu veut quoi? Il veut pas les sacrifices, il veut le chesed. Parce que le christianisme va traduire par amour. Mais en fait, le chesed, c'est plus que l'amour, c'est le respect de l'autre, c'est la foi en l'humanité, c'est la fraternité, plein de choses. Et en fait, j'ai pensé à ben Zakkai, au choix qu'il avait fait, qu'il avait choisi la vie. Et ce qui est très troublant, donc j'ai pensé à ce ben Zakkai, à lui rendre hommage après le 7 octobre, dans cette espèce de post-face, c'est que apparemment, j'ai appris que pour Freud, l'essence juive tenait dans l'attitude de ben Zakkai. Donc, je ne le savais pas. Et donc, oui, il fait absolument écho... Il fait absolument écho à ce que nous traversons en tant que juifs français, mais en tant que juifs dans le monde. Et bien entendu, après le 7 octobre, en me relisant, j'ai quand même bien marqué le pays des juifs en expliquant qu'il était de chaque côté du fleuve jusqu'à la mer.
C'est émouvant ce que vous dites parce qu'on se replonge dans la lecture du livre et puis vous parlez de ses cheveux roux éclatants. Évidemment, on pense à Kfir et à Ariel.
Au lionceau, oui.
Voilà, qui était la couleur des cheveux aussi de Néron. Alors, c'était un peu le hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard. Et c'est vrai qu'il faut vraiment lire ce livre. Ce livre est très bien écrit. Historiquement, il est bien construit aussi. Et puis, il résonne beaucoup dans cette actualité. Comment vous définiriez le style de votre livre? Donc, on dit roman, mais roman historique, polar historique, thriller historique, ou ça n'a pas d'importance?
Je pense que ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai besoin que, en tant que lectrice et en tant qu'auteur, j'ai besoin que ce soit tendu. J'ai besoin qu'il y ait de la tension dans mon récit, qu'on aille vers la résolution de quelque chose. Donc, est-ce que c'est du polar? Je trouve que c'est... c'est quand même bien qu'on résolve des problèmes. Ça correspond aussi à mon besoin de justice. Et sinon, c'est un roman, je pense que c'est un roman immersif, plus caractérisé. J'essaie de prendre de la distance sur la façon dont j'écris. J'ai besoin d'immerger le lecteur dans une époque et de le rendre totalement familier à cette époque qui date d'il y a 2000 ans. Et j'y arrive notamment par les dialogues. J'imagine que les gens parlaient en fait comme vous et moi, et de toute façon peut-être même plus vulgaire dans certains moments. Mm-hmm. Et donc je trouve que en restaurant la vivacité des dialogues, en les faisant converser, on redonne vie. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire revivre une période. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est le roman d'une revenante. Ben, peut-être. En tout cas, on rentre dans le temple et on entend le Kohen Gadol décider qu'il va y avoir une guerre contre Rome. Il est un peu poussé, mais il n'a pas le choix. C'est un sadducéen, il est quand même poussé. Et qui dit, toi, tu vas être le général de Galilée, toi, tu vas être le général de l'Idumée, etc. Donc, c'est surtout ça, c'est une espèce d'immersion. C'est ça que j'ai envie d'obtenir.
Quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à la réception et aux lectrices et aux lecteurs? Parce qu'évidemment, ce livre qui paraît chez Flammarion va être lu par toutes et tous en ce moment. Et c'est franchement bien.
C'est franchement bien. J'espère qu'il va être lu par tout le monde. Bien sûr, en fait, cette démarche, en fait, le peu de journalisme que je fais, le fait de d'enseigner, le fait d'écrire, c'est toujours une démarche de transmission. Donc même... Si je prends des parties qui sont des parties strictement personnelles, je pense toujours au lecteur. Je pense toujours au lecteur. Et celui-là, merci Sandrine d'ailleurs de m'inviter et de me donner la parole, celui-là, je veux spécialement qu'il soit transmis à nos jeunes et à tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est un épisode qu'on connaît, mais qu'on connaît mal, et dont la lecture, en fait, nous renforce. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que cet épisode ? C'est le fait que le judaïsme ait pris sa perte, mais qu'il ait rebondi. En fait, cette destruction du temple, c'est comme le fait d'être chassé du paradis originel. C'est une destruction terrible, mais c'est aussi un extraordinaire rebond. Et j'avais aussi envie de montrer ça.
Et puis c'est une évidence à rappeler, c'est qu'il y avait une présence juive dans l'Antiquité, en Judée et à Jérusalem.
Voilà, alors
il est bon aussi de le dire.
En fait, c'est étonnant qu'on ait besoin de le rappeler. Mm-hmm. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'oublie ? Parce que la civilisation des autres monothéistes, les autres monothéismes, pour exister, ont eu besoin de l'oublier tout de même. C'est-à-dire qu'il a fallu faire de Jésus quelqu'un qui n'était pas juif. Il a fallu aussi... pour d'autres raisons, décorréler les Juifs de la Judée. Mais on en est à un moment où, même pour des raisons qui ne sont pas forcément des raisons religieuses, on l'oublie. On ne le sait même pas. Et donc, vous avez dans les universités des jeunes qui disent les Israéliens sont des colonialistes, etc. Mais non, en fait, donc il fallait absolument. Et donc, que je rappelle ça... Mes personnages s'appellent Ben Simon, Gourion, ils s'appellent comme maintenant, Cohen. les villes s'appellent comme maintenant, et quasiment. Et donc ça, c'est je pense, une force, un besoin que j'avais de rappeler ça, qui pour moi est une évidence, mais pas pour tout le monde.
Votre livre est dédié à la fois à Mireille Hadas-Lebel, vous l'avez cité, l'historienne Monique Alexandre, et aussi à votre père Rémi Rahamim Cohen, que j'ai vu lire et relire Flavius Joseph quand j'étais enfant. Est-ce que c'est de lui que vous vient cet intérêt pour cette période ?
Je pense. Alors, quand on est enfant, vous le savez, le comportement des parents va avoir une influence. Et en fait, J'ai vu mon père qui savait pas trop où il devait se situer. Donc c'est ce judaïsme djerbien, extrêmement traditionnaliste à la fois, mais assez ouvert comme judaïsme, comme pas mal de judaïsme tunisien.
Votre père était né à Djerba ?
Alors il est né à Sfax, mais oui. son grand-père était grand rabbin de Sfax. Son grand-père était grand rabbin de Sfax, mais la famille venait de Djerba. C'était des Kohanim de Djerba. Ils se mariaient contre eux, etc. Et d'ailleurs, son oncle était le premier Dayan du monde séfarade pour l'État d'Israël sous Ben Zvi. Donc c'est vraiment un judaïsme très, très documenté, très traditionnel. Ils parlaient hébreu entre eux et tout ça. Mais mon père n'était pas très observant. Et je le voyais obsédé parce que quand la traduction de Flavius Joseph est sortie aux éditions de Minuit, je le voyais obsédé par ce pourquoi, je le voyais avec un regard interrogateur, et j'ai compris que c'était une clé de voûte, ce moment. Et alors, je dis toujours que ce regard que mon père posait sur le Flavius Joseph et sur le récit incroyable, terrible, formidable et terrible de la destruction de Jérusalem et de la destruction de la Judée, hein, et de la conquête de la Judée, c'est le même regard que j'ai trouvé chez mon père alors que j'avais 4 ans et qu'il y avait la guerre de Kippour, 6 octobre 73. C'est ce même regard. Non, c'est un regard. C'est ce regard comme ça, presque terrifié. Et donc, j'ai été marquée par ça, oui.
Est-ce que le résultat est celui que vous souhaitiez obtenir? Est-ce que vous avez écrit tout ce que vous vouliez écrire?
Alors, on n'écrit jamais tout ce qu'on veut écrire.
Hein. Oui.
Par exemple, j'aurais voulu rappeler que le père de Flavius Joseph était en prison à Jérusalem. On n'écrit jamais. Mais c'est vrai que, bizarrement, pour celui-là, j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire. Et c'est assez curieux comme impression. Je crois qu'il est très important, ce livre, pour moi.
Et puis, la fin annonce une trilogie, au moins une trilogie.
Alors, en fait, il y a une trilogie. Le premier n'est pas très connu. Il était chez De Noël. Il s'appelle Modus Operandi. Donc, c'est les débuts de Marcus. Il y a Le Fauve dans Rome, L'Or de Jérusalem. Mais c'est vrai que la fin, tout en étant résolue quand même, elle est ouverte. Et effectivement, le personnage de Rabbi Meir, hein, si important, dont c'était la Hiloula hier, ou aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, hein, l'Agba Omer, ce personnage de Rabbi Meir, j'ai envie d'explorer son époque. Alors, pourquoi pas?
Il y a sans doute des lecteurs qui vous ont déjà donné leur retour. Qu'est-ce qu'on dit du livre pour l'instant?
Alors, les lecteurs sont ravis, c'est vrai, ils sont transportés dans une époque qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent mal, et ils sont emportés. Voilà ce que me disent les lecteurs. Alors ceux qui n'ont pas du tout l'expérience de l'Antiquité disent qu'ils ont un tout petit peu de mal sur les 3 premières pages à rentrer, parce qu'on a quand même la vaisselle Gaïa qui est dans un sarcophage et qui doit quitter Rome dans ce cercueil, et puis ensuite ils sont embarqués. Donc j'ai plutôt, c'est vrai, un bon retour des lecteurs.
Oui, alors moi je dois vous dire que dès le début j'ai été embarquée parce qu'on dit mais qu'est-ce qui se passe et ça donne envie de poursuivre. Il y a une question classique, mais néanmoins difficile pour conclure cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur dirais que ils vont vivre une époque qui est une époque très importante pour nous, pour eux, qui vont être donc transportés en immersion dans l'Antiquité, et puis qui vont être émus, parce que je pense que c'est un roman qui est extrêmement émouvant, qui vont passer par des hauts et des bas, et puis qui vont avoir des cartouches pour se battre.
Merci beaucoup Nathalie. Alors je fais partie vraiment de ceux qui sont fans de votre livre.
Merci Sandrine.
Parce que c'est pas qu'un roman, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin même d'offrir à nos voisins, quelle que soit la nationalité ou les origines.
Bien
parce
sûr.
Que parce qu'il fait sens. Donc merci beaucoup pour ce livre. Alors je rappelle son titre, hein, L'Or de Jérusalem de Nathalie Cohen, qui vient de paraître chez Femmes Larion et qui en vente dans toutes les bonnes librairies. Bonsoir et à bientôt.
Un grand merci Sandrine.